Donc, pour commencer, je vais remercier les organisateurs du colloque et surtout les féliciter pour leur énergie, parce que depuis août, il y a eu des lectures en bibliothèque en ville, l'exposition à la bibliothèque et enfin, donc ici, le colloque sur Lorca. Donc, dans le cadre du colloque, justement, j'ai choisi de mettre en relation deux œuvres. Hein. D'une part, la pièce de Lorca, Bodas de Sangre, écrite en 1932, et d'autre part, son adaptation au cinéma par Carlos Saura, Bodas de Sangre. Donc, je commencerai par dire que quand j'ai commencé à travailler sur ces deux œuvres, il m'a semblé qu'il y avait au cœur vraiment de chacune d'entre elles, au cœur de chacune d'entre elles, pardon, se trouvait la notion de métamorphose. Métamorphose de quoi ? Métamorphose d'abord de la fable, c'est-à-dire de l'intrigue, hein, dramatique, cinématographique. Métamorphose également en ce qui concerne le genre, hein, puisque je vais en parler brièvement. On passe également d'un fait divers relaté dans la presse à une tragédie. Hein, Lorca intitule bien sa pièce Bodas de Sangre, Tragedia en tres actos. Hein, et puis avec le film de Saura, également métamorphose de genre, puisqu'on passe à un ballet filmé, comme l'a très brillamment démontré Nubia. Alors, j'ai choisi de travailler sur les éléments qui vont cristalliser justement cette métamorphose. Hein. Quels sont les vecteurs de la métamorphose de Bodas de Sangre, la pièce, hein, avec Bodas de Sangre, le film. J'en ai identifié, enfin, je vais travailler sur deux, hein, je vais essayer de respecter le temps. Ces deux-là sont le langage, d'une part, et en ce qui concerne le langage, je vais en particulier m'intéresser à la question du silence. Je vais faire avancer, hop, voilà, le silence. Et enfin, ma troisième partie portera sur le système des personnages dans la pièce, mais aussi dans le film. Système des personnages qui, à mon avis, est centré sur l'absence. Hein, donc, d'où le titre, hein, l'absence au cœur du système des personnages. Mais je commencerai par d'abord rappeler brièvement justement le crime de Nihar, dans la mesure où c'est lui, hein, qui est le matériau à partir duquel va être réélaboré. Va être créée la pièce, puis ensuite le film. Donc, très brièvement, c'est bien un fait divers paru dans la presse espagnole, d'abord locale, puis nationale, hein, à l'été 1928, qui va attirer tout de suite l'attention de Lorca.
Toc, voilà.
Donc, en quoi consiste ce fait divers ? Vous le connaissez tous, je vais m'y arrêter très brièvement. Donc, le 22 juillet 1928, donc, dans la province d'Almeria, hein, a lieu un assassinat, l'assassinat d'un homme, Paco Montes Ocaña, 34 ans. Alors, on ne connaît pas d'abord évidemment son assassin, mais les circonstances attirent l'attention de la presse, puisqu'en fait, il meurt après avoir enlevé une jeune fille au cours de ses noces, une jeune paysanne. L'assassin va être ensuite retrouvé, c'est un des frères du novio, del novio burlado, comme décrit la presse. Et si la jeune fille survit, elle a quand même fait elle aussi l'objet d'une tentative d'assassinat par sa propre sœur qui a voulu l'étrangler. Elle n'a pu sauver sa vie qu'en se faisant passer elle-même pour morte. Donc voilà le fait divers qui attire l'attention de Lorca, et les témoignages vont dans ce sens, hein, aussi bien celui de Marcel Auclair, une de ses amies qui va écrire un livre, que de son propre frère, Francisco Lorca, qui écrivent vraiment l'intérêt que suscite ce fait divers chez Lorca. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'effectivement Lorca va garder plusieurs éléments de ce fait divers. D'abord bien sûr l'identité des personnages, le monde paysan, la localisation, l'Andalousie. Mais il va éliminer certains des éléments que l'on pourrait qualifier de sordides. Hein. Sa métamorphose, à mon avis, elle commence déjà ici. Alors, quels sont les deux éléments que Lorca va ôter au fait divers ? Premièrement, selon les journaux, selon la presse, Paco Montes est le cousin de la novia. Donc, Lorca ôte... il annule totalement, hein, la relation de parenté qui existe entre les deux protagonistes du drame de Nihar. Et cette annulation, elle va se poursuivre aussi dans la pièce de Saura, dans le film, pardon, de Saura. Le deuxième élément également qu'efface Lorca, c'est l'alcool. parce que le frère du, del novio Burlado avoue qu'il a tué trois coups de revolver, donc Paco Montes, parce qu'il avait trop bu. Il était en colère, il l'a pourchassé, il avait trop bu. C'est l'alcool en fait qui l'aurait fait agir. Cet élément-là également disparaît totalement de la pièce de Lorca et également du film. Et bien sûr, disparaît aussi la tentative d'assassinat par la sœur hein, qui a voulu étrangler la novia. En d'autres termes, selon moi, Lorca élimine les éléments que l'on pourrait qualifier de sordides. Une relation trouble entre deux cousins, un homme imbibé qui tire sur un homme désarmé ou en tout cas très affaibli. Et en fait, il recentre l'action sur les deux personnages, sur l'histoire de la passion amoureuse. Malgré tout, hein, même s'il retient la thématique de la passion amoureuse, l'identité également des personnages, Lorca va faire subir à ces éléments-là une métamorphose. Et cette métamorphose passe par deux points qui sont, à mon avis, le langage et le système des personnages. Et du coup, j'ai oublié le... Voilà, je vous ai mis une photo des protagonistes. La novia, en bas, dans la femme avec le fichu, c'est sa sœur. Voilà. Et puis je parlerai de Paola Ortiz tout à l'heure. Alors le langage, pourquoi parler du langage? Parce que tout simplement, Lorca est un dramaturge, mais c'est avant tout un poète. Et ce que je dis est une banalité, mais il accorde une très grande importance au langage. Et il me semble que dans la pièce de Lorca, le langage a une double, si ce n'est voire une triple fonction. Premièrement, le langage des personnages se caractérise par une présence vraiment très forte de termes liés au monde paysan. La première scène de la pièce s'ouvre par un dialogue entre El Novio et sa mère, et il parle de las viñas, des vignes, où il va aller travailler. Ensuite, il y a une allusion, enfin, il y a toute une discussion autour de la navaja, le couteau, mais aussi d'autres armes, la escopeta, el cuchillo, la pistola. Donc, en fait, cette discussion-là n'est qu'une parmi d'autres. Hein. Il y a une autre scène plus tard dans le livre, mais en présence, le père de la novia et la mère du novio, et tous deux discutent encore de champs, de terre. Donc, par ce lexique-là, ils vont vraiment, effectivement, ancrer la pièce dans le monde paysan. Hein. Donc, le langage ici a bien une fonction référentielle par rapport à la réalité. C'est le lexique du travail des champs, le lexique également du mode de vie hein, des paysans. Mais en plus d'avoir cette fonction référentielle n'est pas seulement assumée par ce lexique-là, mais aussi par la chanson, la musique populaire qui est omniprésente dans l'œuvre de Lorca. Je vais juste m'arrêter sur l'une de ses chansons populaires, qui est une berceuse chantée par la suegra au fils de Leonardo. Cette nana est la nana del caballo grande. Donc, c'est une berceuse que Lorca invente, mais il invente à partir d'une berceuse déjà existante. Donc, berceuse traditionnelle, on est là encore dans la culture populaire, le monde andalou, mais la réélaboration poétique fait apparaître un deuxième niveau d'utilisation, si je puis me permettre, du langage. Le langage a aussi une fonction proprement esthétique liée à l'économie dramatique. Que dit cette berceuse? Cette berceuse parle d'un cheval, hein, j'y reviendrai plus tard, donc référence au monde paysan, mais c'est un cheval qui va être porteur de mort, comme je le développerai plus bas. C'est-à-dire que le langage annonce la mort de Leonardo. Le langage, ici, a une fonction prophétique, hein, et donc on voit bien comment se combine à la fois la fonction référentielle et la fonction symbolique, prophétique, ici, du langage. Dans le film de Saora, comment était retranscrit, justement, cet ancrage dans l'Andalousie rurale, dans le monde paysan andalou. Sofiana, j'ai besoin de toi. Et en fait, le lien ici avec l'œuvre de Lorca est très fort, puisque c'est la musique. S'il te plaît, le film, voilà. Tu peux juste faire un tout petit peu en arrière, c'est possible. S'il te plaît, tu vois, tout début. Voilà. Donc, les premières impressions du film, c'est la musique. C'est la guitare andalouse, et c'est ça qui nous ancre dans l'Andalousie. Tu peux me remettre sur pause, s'il te plaît ? Merci. Et donc, je rejoins tout à fait ce que disait Milia. En fait, c'est pas un film, c'est un ballet filmé, et la musique est un élément essentiel. Alors, ça m'a vraiment intéressé que ce soit la musique dans le film de Saoja qui ancre le film dans l'Andalousie, parce que justement dans le film de Paola Ortiz, la novia, ce n'est pas du tout ça. Le début du trailer, excusez mon accent, on va pouvoir le visionner maintenant, c'est vraiment des scènes de paysage. Ce n'est plus uniquement la musique. Bon, excusez-moi, j'y reviendrai plus tard si je retrouve le passage que je voulais vous montrer. En tout cas, voilà, dans son film, vraiment l'espace est filmé, et c'est bien l'espace de l'Andalousie. Hein. Alors, parler du langage m'a amené également à regarder, à m'intéresser au dialogue dans le film. Et ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film, c'est qu'en fait, il n'y a pas de dialogue, ou très très peu. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être face à un ballet filmé plutôt qu'un film. Et donc je disais, j'étais frappée par l'absence de dialogue. Et je rejoins encore aussi ma collègue, tout passe par le corps. Et cette importance du corps, elle se voit dès le début du film par justement la première image que l'on voit du film, c'est une photo. Tu peux me promettre, s'il te plaît ? Merci. Et on va s'arrêter justement sur cette photo. Voilà. Donc vous voyez cette photo, elle rassemble tous les protagonistes du film, à l'exception de Leonardo. Hein. C'est une photo en sépia, jaunie, hein, donc qui marque bien le passage du temps entre le moment où a été prise cette photo, donc les années 30, enfin 1928, et le moment où est tourné le film de Saoja. Hein. Et c'est donc une photo de la noce, dans laquelle les personnages ont... Enfin, il y a des hommes, bien sûr, des femmes. Et au centre de la photo se trouve le novio, la novia, mais aussi la mère du novio, hein, qui tous deux ont une position d'autorité, une posture d'autorité. Ce qui m'a intéressé dans cette photo, ce n'est pas tant en fait les personnages présents que les personnages absents. Et le seul absent ici, c'est Leonardo. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que Leonardo était ici absent ? Et j'ai mis en fait en relation son absence sur la photo avec la problématique du silence qui est à mon avis omniprésente à la fois dans l'œuvre mais aussi dans le film. Un exemple, dans l'œuvre théâtrale aussi bien que dans le film, on ne sait pas vraiment pourquoi Leonardo et la novia ne sont plus ensemble. Et à un moment donné, ils parlent d'argent, d'un qui était moins riche que l'autre, mais ce n'est pas vraiment clair. Hein, ça reste très, très imprécis. Donc voilà, je pense que ici la photo, en mettant au centre de la photo l'absence de Leonardo, traduit justement les silences de l'œuvre. Et ces silences, on les retrouve également dans le système des personnages, aussi bien dans la pièce que dans le film. Alors justement, quel est le système des personnages ? Comment fonctionne le système des personnages dans l'œuvre de Lorca ? Dans l'œuvre, dans la liste des personnages, j'ai relevé 14 noms. Hein, je ne vais pas tous vous les lire, mais... vous pouvez me faire confiance sur ce point-là. J'en ai relevé 5 féminins. La madre, la novia, la suegra, la mujer de Leonardo, la criada. À ces 5 vraiment identifiés, on peut ajouter un groupe, las muchachas. Muchachas, hein. De l'autre côté, on a 3 personnages masculins, eux aussi identifiés. Leonardo, el novio, el padre de la novia. Ensuite, 2 groupes, los leñadores y los mozos. Et enfin, 2 entités, moi j'appelle ça comme ça, 2 entités, la luna, mais une qui parle, donc la luna, hein, et la muerte. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai étudié le système de personnages, c'est le déséquilibre apparent, je dis bien apparent, en faveur du féminin. Puisque, pourquoi apparent ? Parce qu'on a plus de personnages féminins, 5 plus un groupe, et puis 3 personnages masculins et 2 groupes d'hommes. Mais en fait, justement, il y a 2 groupes d'hommes. Hein. Donc, numériquement, hein, ici, les hommes, les personnages masculins, sont plus nombreux que les personnages féminins. Et la lune, la mort, agissent comme des alliés des groupes de los leñadores et de los mozos, comme des alliés donc du pôle masculin. Alors, s'ils sont plus nombreux, ils ont également plus de poids dans la société. Et ils sont désignés, hein, que ce soit el novio, el padre de la novia, par des mots, des noms, qui renvoient à leur fonction exercée dans la société. Padre, novio. Padre, donc chef de famille, hein, qui en plus ici est un paysan. Donc on est pris dans un système de mariage, de réseau, de famille, de transmission de biens. On a parlé tout à l'heure de bandos, de famille rivale. Et justement, le seul personnage masculin à ne pas être désigné par son statut social, c'est Leonardo. C'est Leonardo. Alors justement, je me suis arrêtée sur Leonardo. Et j'ai remarqué que Leonardo, il se situe à la jonction du monde féminin et du monde masculin. Il vient juste après la muchacha, qui est le dernier groupe féminin, et c'est le premier personnage masculin à être mentionné, Leonardo. Mais pourquoi lui ? Hein ? Pourquoi lui ? Pourquoi est-ce qu'il est le seul à être individualisé par un prénom qui lui est propre, qui l'individualise ? Leonardo, dans la pièce, est père. Il est marié, il est père. Et d'ailleurs, donc, c'est-à-dire qu'il fait partie du même système de valeurs, de transmission que le padre, par exemple. Hein ? Donc, il aurait très bien, ou que el novio, il aurait très bien pu, à ce titre, avoir un nom aussi, marido, par exemple. Et en plus, dans la pièce, son appartenance, son inscription dans ce système de valeurs patriarcales, transmission familiale, cette inscription, elle est évidente, elle est soulignée, par exemple, dans la scène où il apparaît pour la première fois. La première fois qu'apparaît Leonardo, c'est dans la seconde scène de l'acte 1, et les premiers mots qu'il prononce sont « y el niño ». Ces premiers mots sont pour son fils. Donc, c'est bien un père qu'on nous présente. Pourtant, et c'est ce que je vais démontrer maintenant, le fait qu'il possède ce prénom qu'il individualise, Leonardo, montre bien que ce n'est pas sa fonction de père au sein de la famille, de la société qui compte ici, mais bien son individualité, son destin. Le mot de sino revient constamment dans l'œuvre. Hein, et son destin, celui justement d'un cheval fou, celui de la berceuse que sa belle-mère chantait à son fils. Hein. Donc cette chanson qui parle d'un cheval fou qui a l'énergie, non pas vitale, mais létale, c'est bien son destin qui est ici annoncé, hein, d'une mort, d'une passion qui le conduit à la mort. Donc voilà par rapport à voilà ce que je pense en tout cas de l'individualisation de Leonardo dans le système des personnages. Alors du coup, excusez-moi. Oui, je reviens à la notion de rivalité qu'avait souligné Miria. Effectivement, ce qui m'a frappé aussi dans la liste des personnages, c'est que le premier personnage féminin de la liste, c'est la madre, la mère del novio, qui est une femme d'autorité, une femme de poids, et Leonardo est bien le premier personnage masculin. Donc il y a bien une tension qui est créée entre les deux dès le départ. Alors, justement, qu'en est-il de cette liste des personnages dans le film de Saora ? Qu'en est-il ? Eh bien, je vais vous montrer que, bien sûr, elle fonctionne différemment avec votre procédé, mais que là aussi, ce qui est mis en scène, enfin, ce qui est filmé, c'est à la fois l'importance de Leonardo et son absence. On voit très bien le triangle, hein. La belle-mère, la novia et le novia. Mais la scène en fait est juste après la scène de que j'analyse comme la liste des personnages dans le film. C'est pour ça que je ne peux pas couper. Voilà, elle commence ici. Alors, pour moi, la liste des personnages, elle commence ici, dans le film. C'est l'une des scènes les plus longues, hein, donc on va peut-être... Tu peux juste baisser le son un petit peu. On va baisser le son pour la voir comme ça en toile de fond. Alors voilà, pour moi, elle est ici. Donc, vous voyez, on a eu la photo, hein, qui plante le décor en quelque sorte. Et juste après, on va voir arriver la troupe de danseurs, précédée donc par un personnage qui vient ici préparer, allumer les lampes, les loges où les danseurs se maquillent et se préparent. Et pour moi, vraiment, cette séquence s'apparente à une liste de personnages, parce que c'est là que sont présentés les personnages. Voilà, voilà. Tu peux mettre sur pause, s'il te plaît. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, ce que tient le personnage, c'est le voile de la mariée. Hein, très clairement. Donc, continue, s'il te plaît. Je vais vous montrer juste quelques éléments. Donc, le voile de la mariée. Son bouquet de fleurs, vous voyez les éléments qu'on va retrouver qu'on a retrouvé déjà sur la photo. Voilà, il va les poser devant le miroir. Donc on sait que l'actrice, la danseuse qui va s'asseoir ici, c'est elle qui aura le rôle de la novia. Hein, donc par rapport, voilà. Et là, tu peux mettre, si tu peux, voilà, c'est merci. Le premier personnage entré, c'est le personnage de Leonardo. Vous voyez, premier personnage masculin dans la pièce, premier personnage féminin dans le film. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le premier personnage présenté dans le film, ce n'est pas la suegra, la madre, pardon, mais c'est bien des accessoires qui sont liés à la novia. Alors, accessoires, donc, c'est moins important que physiquement, hein, bien sûr, la présence de Leonardo, mais c'est quand même elle. Et là aussi, je pense que ça montre bien que l'action se recentre sur la passion amoureuse, hein, comme vous le disiez. Voilà. Tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît. Voilà, donc là, voilà, tout de suite après Leonardo, la novia. Je voudrais que vous écoutiez la bande son, si vous voulez bien. Donc parmi ces personnages, certains auront des rôles bien individualisés, d'autres font partie des groupes, hein, Mozos, Leñadores, Muchachas. Je voudrais juste qu'on puisse entendre les premiers mots de la novia.
Normalement, c'est pareil, au début, j'avais le droit. Il y a assez une communication, donc c'est bon, tant pour ça.
Ah voilà, mince, excusez-moi. Vous l'avez pas entendu? Si. Oye, alguien tiene una aspirina. Donc, les premiers mots de la nobia, hein, c'est pour faire état d'une souffrance. Une souffrance liée au corps, une aspirina, mais quand même, malgré tout, une souffrance. Voyez. Et là, j'ai trouvé ça très très fort, parce que c'est relié à la fois au monde de la danse, donc la douleur physique, l'entraînement, etc. Mais c'est lié aussi à la souffrance de la novia. Alors, pour ne pas traîner trop longtemps, parce que je sais qu'il y a ensuite une communication et puis la visite, je vais terminer maintenant, simplement. Voilà, il y a plein d'autres personnages dont je pourrais également vous parler, hein. Chacun s'installe, on va avoir une danseuse qui va mettre des images pieuses, une photo de petit garçon, enfin, chacun a ses accessoires. Leonardo, donc lui, est le premier à entrer, et c'est aussi lui qui va avoir une tirade assez longue dans laquelle il va expliquer que oui, lui, c'est un danseur, et il explique comment il est, Antonio Gades. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans ce monde-là de la danse? Et j'ai trouvé ça très très fort également, parce qu'une fois encore, ce qui est mis au centre de la pièce, c'était bien cette notion d'identité andalouse, hein, de culture populaire également, la danse. Et encore une fois, par rapport à Leonardo, il est présent, c'est Leonardo, enfin c'est pas encore Leonardo, c'est le danseur en train de se préparer, hein, mais il est également au centre, c'est lui qui entre, c'est lui qui est important. Donc voilà, toute une esthétique là, du paradoxe finalement autour de la figure de Leonardo. Je conclurai en disant que vraiment la question de la métamorphose me semble essentielle quand on étudie Bodas de Sangre, que ce soit le théâtre ou les versions au théâtre, hein, mais aussi le film, celui de Paula Ortiz aussi, et que malgré tout, il reste des invariants qui sont, à mon avis, l'identité andalouse, la passion tragique, la notion de fatalité. Hein, et tout cela se résume pour moi en deux mots, la question du silence et de l'absence. Merci.
Merci beaucoup de ces deux très très subtiles communications esthétiques, poétiques, théâtrales. Alors,